Radio Okapi.
Le journal, Jocelyne Moussaou Pondé.
Je porte en moi, dans la prière, les souffrances que vous éprouvez depuis trop longtemps. C'est le message du pape François aux Congolais et aux Sud-Soudanais dans une vidéo publiée ce samedi. 4 morts dans un incendie causé hier par un court-circuit au camp militaire Kibati à Lubumbashi. Les victimes sont une mère et 3 de ses enfants. Fin mercredi dernier au Kasaï oriental de la mission de la délégation de l'Agence nationale d'électrification et de services énergétiques en milieux ruraux et périurbains, Damien Tambilangana, coordonnateur d'Anser pour le Kasaï, Grand Kasaï, est notre invité. Bonsoir à tous. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure, particulièrement dans l'est du pays, où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Ces propos sont du pape François dans une vidéo publiée ce samedi adressée aux populations de la RDC et du Soudan du Sud. Le souverain pontife exprime son regret d'avoir été contraint de reporter sa visite dans ces deux pays. Il appelle surtout les responsables politiques à tourner la page pour ouvrir des nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine ainsi que de développement. On écoute le pape François dans cet extrait proposé par Alain Hirung.
Je voudrais vous dire que je vous porte plus que jamais dans mon cœur, surtout en ces semaines. Je porte en moi dans la prière les souffrances que vous éprouvez depuis trop longtemps. Je pense à la République démocratique du Congo, à l'exploitation, à la violence et à l'insécurité qu'elle endure, particulièrement dans l'est du pays, où les affrontements armés se poursuivent, causant des souffrances innombrables et dramatiques, exacerbées par l'indifférence et la complaisance de beaucoup. Chers amis congolais et sud-soudanais, vous avez tous une grande mission, à commencer par les responsables politiques, celle de tourner la page pour ouvrir de nouvelles voies de réconciliation et de pardon, de coexistence sereine, de développement. C'est une mission qu'il faut assumer en regardant ensemble vers l'avenir, vers les nombreux jeunes qui peuplent vos terres luxuriantes et blessées, les comblant de lumière et d'avenir. Ils rêvent et méritent de voir ces rêves se réaliser, de voir des jours de paix. Pour eux en particulier, il faut déposer les armes, vaincre les rancunes, écrire de nouvelles pages de fraternité.
Pendant ce temps, 3 civils ont été tués dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF hier vendredi à Makakua et Poindi, 2 villages du territoire de Beni au Nord-Kivu. Parmi les victimes figure un chef de base du village Poindi, renseigne le président de la société civile de Mamove. Kinos Katuo indique que les assaillants ont également pillé certains biens de la population et incendié 2 motos avant de se retrancher dans la brousse. Il note, sans donner de chiffres, que quelques habitants n'ont pas encore été retrouvé depuis cette attaque. Cet acteur de la société civile révèle par ailleurs l'installation d'un nouveau bastion des ADF près de la rivière Samboko dans le secteur de Beni Mbao. En Ituri, le tout premier dialogue intergénérationnel sur la participation des jeunes au processus de paix s'est clôturé hier vendredi à Bunia. Cette rencontre, organisée par le Conseil national des jeunes et l'ambassadeur de la Charte africaine de la jeunesse, a réuni plus de 50 jeunes, des hommes politiques, des leaders communautaires ainsi que des autorités provinciales. Selon les organisateurs, l'objectif était de favoriser un dialogue franc entre la jeunesse et les aînés sur les responsabilités de chaque génération dans le processus de paix dans cette province. Reportage Clarisse Zindula.
Venus des 5 territoires de l'Ituri, ces jeunes sont déterminés à contribuer au retour de la paix effective dans leur milieu. Ce dialogue était pour eux une occasion de rappeler aux aînés le rôle qu'ils ont joué dans la crise que traverse l'Ituri. C'est notamment la manipulation et l'instrumentalisation de la jeunesse pour des intérêts sociopolitiques. Ces jeunes ont également recommandé aux aînés des attitudes à adopter pour les accompagner dans la reconstruction de leur province.
S'il y a un problème, devons militer dans la paix. Au lieu de mobiliser les gens dans les troubles, nous devons
avoir la paix, pour que notre milieu soit sécurisé.
De leur côté, les aînés ont reconnu cette attitude manipulatrice que la plupart des leaders politiques et communautaires adoptent à l'égard de la jeunesse. Ils invitent les jeunes à ne pas céder aux manipulations qui détruisent leur avenir et déstabilisent la province. Le président de la communauté Zunana demande au gouvernement de punir sévèrement ceux qui instrumentalisent les jeunes. Le professeur Mateso Zorabo.
Parce que ici, vous indexez la jeunesse d'être manipulée. Mais également, il faut aussi remonter aux manipulateurs.
Signalons que ce dialogue intergénérationnel a été installé en Ituri comme cadre permanent pour faciliter le dialogue entre les jeunes et les différents leaders pour la paix et le développement de l'Ituri. Bounia, Clarisse Zindula, Radio Okapi.
Venons-en à présent à ce drame. Une mère et trois de ses enfants sont morts dans un incendie qui s'est déclaré hier au camp militaire Kibati, bataillon régiment situé sur l'avenue Kibati dans la commune de Kampemba à Lubumbashi. Des témoins trouvés sur place renseignent que cet incendie serait causé par un court-circuit et les mauvais raccordements de câbles électriques. Les détails avec Jean Gandou.
Des sources trouvées sur place renseignent que l'incident est survenu ce vendredi aux environs de 23h, juste au moment où la SNEL venait de rétablir le courant électrique. Après le déclenchement de l'incendie, c'était le sauve-qui-peut au fur et à mesure que le feu avançait. Parce que toutes les maisons construites en bâche, en tôle et en bois sont parties en fumée et les biens rendus en cendres. À notre passage ce samedi, nous avons trouvé les quatre corps calcinés, tous membres d'une même famille, encore dans les décombres. D'un côté, l'image la plus marquante est celle d'une mère calcinée avec son bébé de 3 mois, serré dans ses bras. D'un autre, les rescapés, les curieux et autres membres des familles des disparus, assis sous un abri de fortune, morts dans l'âme, contemplaient les quatre corps inertes. Un peu plus loin, la fumée s'est dégagée encore des décombres pendant que les quatre cercueils étaient bien rangés pour accueillir ce qui reste des corps des disparus. Ce sont plus de 144 familles qui restent sans abri, d'où le cri de détresse de Stetor Muloko, président des enfants militaires.
Aux autorités de penser aux familles de militaires qui viennent de perdre leur maison et leur famille. Et ce n'est pas facile de voir les familles qui manque quoi manger et qui manque où habiter.
Pour sa part, le colonel Charles Magitayav, commandant de la 22e direction régionale CECAS FRDC, a indiqué que toute la hiérarchie militaire est au courant de ces drames. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Et puis, plus de 20 maisons parties en fumée aux petites heures de ce samedi dans la cité minière de Moubi. C'est dans le groupement Utanda, secteur de Wanyanga, environ 36 km du chef-lieu du territoire de Walikale au Nord Kivu. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues, mais les sources de la société civile du territoire et d'autres organisations locales parlent jusqu'en fin de cet après-midi d'un acte criminel supposé. Le point avec Gabriel Arménien.
C'est aux environs de 5h du matin de ce samedi qu'une panache de fumée a été aperçue dans la maison d'un habitant au cœur de la cité, dans le quartier Mungu Atosha, sur l'avenue Kafankuba. Très vite, l'effet s'est propagé sur les toits d'autres habitations et maisons de commerce, boutiques, bistrots et bureaux d'autres services de l'État, ainsi que quelques organisations locales n'ont pas échappé à la folie de la flamme. Pas de dégâts humains, mais le bilan en termes des biens de valeur calcinés dans les boutiques et maisons privées est important, affirme Fiston Misona de la société civile du territoire de Walikale. Selon les premières enquêtes menées par la police sur les sites du sinistre, l'hypothèse d'un acte criminel prémédité n'est pas exclue pour ce deuxième cas d'incendie depuis le début de cette année dans la cité de Moubi, précise les mêmes sources. Misona affirme que les dégâts ont été limités de justesse par les habitants de la cité. Ces derniers ont fait usage des tronçonneuses afin de délier rapidement les toitures de quelques maisons contiguës. C'est ce qui a pu stopper la propagation des rafales de flammes sur d'autres habitations, affirme un autre cadre de base à Moubi. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Et pour changer de registre, cette nouvelle moins triste, c'est l'électrification très bientôt de la ville de Kenge. Le gouvernement provincial du Kwango vient de signer un contrat avec des entrepreneurs chinois pour la construction des lignes sous tension allant du parc agro-industriel de Bukangalonzo jusqu'au chef-lieu de la province. Ce projet d'électrification ne concerne pas seulement la ville de Kenge, mais aussi les villages environnants. C'est le vice-gouverneur du Kwango, Saturin Tangandandu, qui l'annonce et qui affirme d'ailleurs que cette électrification aura un impact positif dans la province du Kwango car elle va booster son développement. Il est joint au téléphone par Irène Boma.
Je confirme cette information selon laquelle la ville de Kenge sera bientôt électrifiée. Les démarches ont été déjà accomplies à partir de Kinshasa. Le chef de l'exécutif provincial a signé un contrat avec les consortiums d'entrepreneurs chinois à partir de l'Angola. Ici à Kinshasa, ils ont finalisé avec notre patriarche Christophe Mboso Kouriakouanga, le président de l'Assemblée nationale. Les courants partent à partir des Maluku. Ils sont en train de vérifier les lignes jusqu'au point de chute des parcs agro-industriels. Le parc agro-industriel est juste à Kenge. Parce que nous avons des lignes haute tension. Et les travaux sont en train d'être effectués à partir du parc agro-industriel de Bukangalonzo. Vous savez, le courant a un impact énorme lié au développement de notre province. Et comme ça, le courant, je ne pense pas qu'il y aura installation des industries, des usines, ainsi de suite. C'est le courant qui doit en principe booster le développement de la province. Non seulement à Kenge ville, mais aussi à les villages environnants.
Également dans l'actualité, la 56e édition de la Foire internationale de Ndola en Zambie, qui se tient depuis le 29 juin dernier. La République démocratique du Congo y prend aussi part. Elle est représentée par les entreprises tant publiques et privées venues des provinces du Tanganyika, Lualaba et Okatanga. Madame Lydiana Nabima Nyembo de la coopérative agricole et d'élevage Copagel en sigle nous parle de son exposition et du bénéfice qu'elle va y tirer. Elle est jointe par Jean Gandou.
Nous venons d'exposer nos tableaux artistiques réalisés à base de céréales. Il s'agit notamment des haricots, riz, soja, sorgho, petits pois, mais aussi pour cette 56e édition, nous avions réalisé nos tableaux à base de frétin, un produit de pêche et d'élevage. La spécialité de nos produits nous attire autant de visiteurs dans notre stand. Cette innovation nous permet de générer des bénéfices pour l'autonomisation économique de la femme vivant dans le milieu rural qui représente 90% des femmes qui composent la Copagel. Étant donné que c'est un rendez-vous d'échange d'expérience, de contacts, de découvertes des talents et des potentialités d'affaires, aussi bien pour de futurs partenariats dans notre chaîne de production agricole.
Retournons au Nord Kivu où plusieurs coopératives ont déjà abandonné leurs actions suite à l'activisme de groupes armés dans les territoires de Beni et Lubero depuis presque une décennie. Cette situation est à la base de la rareté de quelques produits agricoles, mais surtout de la hausse de leurs prix sur le marché. C'est ce qu'ont déclaré les membres de certaines coopératives qui ont organisé une séance d'échange ce samedi à Butembo pour célébrer la 28e édition de la Journée internationale de coopératives instituée par les Nations Unis chaque premier samedi du mois de juillet. Sous le thème « Les coopératives construisent un monde meilleur », ces organisations plaident cependant pour le retour de la paix dans l'est du pays. C'est ce qu'explique ici Muindo Kisoki Lukando, l'un des organisateurs de cette activité, au micro de Grévis Saloum.
Il y a des coopératives qui ont été contraintes de laisser leurs exploitations à cause de l'activisme des groupes armés. Il y a beaucoup de tonnes de produits agricoles, copés seulement beaucoup de millions de dollars qui ont été consommés. On est obligé seulement de se concentrer dans des zones qui sont peu sécurisées. Mais en tout cas, dans la région, surtout le territoire de Beni, les actions des coopératives sont en train de souffrir à cause de l'insécurité. La conséquence, c'est qu'il y a hausse d'abord des prix sur le marché. Donc, le produit qui était reconnu d'avance comme étant des produits officiels qui ne manquaient pas, ils ne sont plus sur le marché. Même en territoire de Lubero, les coopératives qui font la pompe de terre et tout comme ça, elles ne les font plus d'une façon aisée. Ces coopératives fonctionnent à moins de 40% de leur fonctionnement normal qu'on connaissait auparavant. Donc leurs entrepôts sont presque vides. Il y a d'autres coopératives qui sont en train de virer leurs actions vers d'autres aspects qui n'étaient pas des aspects qu'elles faisaient auparavant. On doit instaurer un climat de confiance entre les populations et les services de sécurité. On propose à ce que les autorités puissent encore mettre un peu plus d'efforts sur le plan sécuritaire. Ça peut nous aider à regagner encore nos milieu de travail d'avant.
Distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action dans la province du Kwilu. Le gouverneur Willy Itundala met en garde toute personne qui tenterait d'utiliser ces moustiquaires à d'autres fins en dehors de l'objectif pour lequel elles sont distribuées. Selon lui, ces moustiquaires sont donnés à la population afin d'être installés correctement sur les lits et la protéger contre les piqûres des moustiques qui transmettent les microbes du paludisme. Il fait savoir que toutes les dispositions sont prises pour sanctionner tous ceux qui feront mauvais usage des dites moustiquaires. Irène Boma nous fait le point.
Le gouverneur du Kwilu s'est dit préoccupé de constater depuis toujours une utilisation abusive de moustiquaires imprégnés d'insecticides mild en sigle par la population. Selon Willy Itundala, il y a même des pêcheurs qui les utilisent comme filets de pêche. Certaines personnes s'en servent pour clôturer leurs parcelles ou leurs jardins et les jeunes gens les utilisent comme filets dans leur terrain de football. Cette fois-ci, toutes ces pratiques doivent prendre fin et les récalcitrants seront poursuivis, a-t-il martelé.
On a pris des dispositions. Cette fois-ci, tout contrevenant sera arrêté. Tous les services de sécurité sont à la veilleuse. La police, la ANR, nous serons derrière tous ceux qui vont faire un mauvais usage.
Du côté de la population, certaines personnes saluent cette mesure prise par le gouverneur Itundala et condamnent aussi tous ceux qui font mauvais usage des mildes.
On donne cela pour protéger la population, on ne donne pas cela pour d'autres fins. Il y en a même qui reçoivent cela, mais les enfants dorment sans moustiquaire et ils ont la malaria. Alors pour cela, j'appuie le gouverneur par rapport aux mesures qu'il a prises.
Willy Itundala a aussi mis en garde tous les prestataires de santé qui, selon lui, se donnent à vendre ces moustiquaires que l'on trouve sur les marchés. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Libye, des manifestations ont eu lieu hier vendredi dans plusieurs villes pour dénoncer la détérioration des conditions de vie et l'impasse politique. À Tobrouk, dans l'est du pays, des manifestants ont investi le siège du Parlement et y ont mis le feu en signe de colère à l'égard de deux gouvernements rivaux qui ont rendu la vie insupportable. Selon des témoins, cette mobilisation intervient alors que la Libye est en proie depuis plusieurs jours à des coupures de courant qui aggravent la situation.
L'invité.
Au Kassai oriental, fin mercredi dernier, de la mission de la délégation de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains, cette délégation est venue faire des projections pour déterminer la demande en énergie électrique ainsi que l'ensemble d'infrastructures permettant d'acheminer cette énergie électrique dans les milieux ruraux. Damien Twambilangana, coordonnateur d'Anser pour le Grand Kassai, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour, monsieur Damien Twambilangana. Vous êtes le coordonnateur de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu ruraux et périurbains pour le Grand Kassai. Vous venez de clôturer votre mission en Mbujimayi au Kassai oriental. Quel a été le but de cette mission?
Nous sommes repartis encore sur Mbujimayi, donc dans le Kassai oriental. C'est pour revisiter les sites que nous avions identifiés déjà auparavant, pour poursuivre les travaux qu'on avait déjà commencés. Et cette fois-ci, nous avions voulu en fait faire déjà des projections sur les réseaux, parce que nous pensons implémenter sur les sites des centrales solaires et sur d'autres des centrales hydroélectriques. Donc nous avons eu l'occasion de voir quelques sites sur Miabi, certains autres sur l'Oukalaba, d'autres sur le Patapata, et d'autres sur Mbujimayi même, et nous étions aussi sur Mupompa. Voilà, ça c'était pour le Kassai oriental.
Que pouvons-nous retenir par rapport aux études faites autour de l'électrification des milieux ruraux de la province du Kassai oriental?
Les études faites montrent que le Kassai oriental a un grand potentiel. Vous savez, nous planifions par exemple être impliqués dans la réhabilitation de la Tchala. La Tchala qui va produire au-delà de 30 MW, mais évidemment, on pense commencer avec la Tchala 1 qui va produire 10 MW. Et évidemment, ce n'est pas un projet d'urgence, mais c'est un projet qui est en tout cas repris dans nos priorités. Et puis, vous savez, il y a beaucoup d'autres sites qui sont planifiés en fait sur le Kassai oriental. Les études montrent qu'il y a un potentiel et que c'est réalisable. Maintenant, tout ce qui reste, c'est commencer à organiser tous les mécanismes de décaissement des moyens financiers, de lancer des appels d'offres et inviter les investisseurs, inviter les entrepreneurs à les réaliser. Nous travaillons aussi dans les cadres de partenariat public-privé, en dehors de la dotation de l'État que nous utilisons actuellement pour les sites visés. Nous avons des investisseurs qui viennent. Le Kassai oriental, par exemple, est concerné par des sociétés qui sont très intéressées par la Loubi à Kenankola, où nous planifions faire une centrale. centrale de 4 MW. Les études ont été réalisées et ont montré en tout cas la viabilité.
À quand les débuts des travaux proprement dites ?
Voilà, nous avons déjà un chronogramme que nous avons fixé, dont nous nous sommes dit le mois de juillet et août sont les mois qui sont consacrés à la contractualisation, c'est-à-dire nous allons déjà lancer les appels d'offres à partir du 15 juillet et nous ferons toute la formalisation administrative avec les entreprises et puis avec les institutions publiques impliquées dans ces processus, c'est par exemple la passation des marchés. Et puis nous allons finaliser avec d'abord la visite des sites par les entrepreneurs qui sont identifiés et à la fin la signature des contrats avec ceux qui auront gagné les marchés. Nous avons déjà identifié une 60aine d'entreprises qui ont répondu à notre invitation. Les deux premiers mois, donc juillet et août, seront consacrés à cela. Par contre, le mois de septembre et octobre seront consacrés à toutes les questions de logistique, c'est-à-dire faire venir le matériel de l'extérieur. Les sites ont été choisis sur l'ensemble des 5 provinces du Grand Kassai que nous coordonnons. Mais pour le Kassai oriental, c'est des sites que j'ai cités tout à l'heure. Donc, les deux mois, septembre-octobre, ce sera pour acheminer le matériel sur les sites qui ont été choisis. Alors, les mois de novembre et décembre sont des mois consacrés à la construction et à l'implémentation. Nous nous sommes avec des entrepreneurs que nous devrions lever le défi de faire en sorte que le 15 décembre 2022, que la lumière puisse en tout cas briller partout où nous aurons à implémenter nos centrales solaires et hydroélectriques.
Oui, Monsieur Damien, d'après le projet, combien de localités seront électrifiées dans la province du Kassai oriental?
Le Kassai oriental compte à peu près 5 territoires. Vous savez, chaque territoire compte plus ou moins 5 secteurs. Les plans locaux d'électrification du Kassai oriental prévoient à ce que chaque territoire puisse être électrifié avec quelques villages en fait qui présentent un certain potentiel, de manière à ce que nos installations puissent être beaucoup plus rapprochées des consommateurs. Alors, mais là, nous sommes dans un programme d'urgence que nous sommes appelés à réaliser avant la fin de l'année. Et là, nous avons choisi, en tout cas pour juste la zone Kassai orientale, il y a à peu près 7 sites qui sont visés pour être électrifiés en tout cas avant la fin de l'année.
Merci beaucoup Monsieur Damien Twambilangana.
Merci.
Ainsi s'achève cette édition du journal. Merci à vous tous, chers auditeurs, de l'avoir suivi.